Il est midi et demi sur France Culture. C'est l'heure du journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les retraités manifestent pour la seconde fois en France pour dénoncer l'érosion de leur pouvoir d'achat lié à la hausse de la CSG. Précision dans un instant de Damien Triomphe. Nouvelle mobilisation aussi pour les personnels des EHPAD qui réclament plus de moyens humains et financiers. Analyse d'Annabelle Grelier. Et puis les principaux syndicats de la SNCF vont décider ce soir du principe et des modalités d'une grève. Ils ont déjà annoncé une mobilisation aux côtés des fonctionnaires le 22 mars prochain, suivi de ce mouvement avec Hakim Kassou. La crise diplomatique entre Londres et Moscou, le Kremlin promet une riposte rapide après la décision de Londres d'expulser les diplomates russes pour la sanctionner après l'empoisonnement d'un ancien agent double russe en Angleterre. Commentaire de Nadine Epstein. Le géant du jouet Toys R Us ferme tous ses magasins aux États-Unis. 33 000 emplois menacés. En France, la fermeture des 53 magasins du groupe est envisagée. Explication de Camille Magnard. L'invité de la séquence interview, Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé des affaires européennes. Dans la dernière partie de la grande table, Olivier Jesbert.
Une entreprise peut-elle fonctionner sur un mode démocratique et réciproquement, un État peut-il être géré comme une entreprise? On va en parler avec notre invité, le professeur au Collège de France, Alain Supiot, grand spécialiste du droit du travail et de la sécurité sociale, toujours dans le cadre de notre journée spéciale 10 mois de présidence Macron. Quel est le sens de l'action du gouvernement?
Les retraités sont donc appelés à manifester, c'est la seconde fois en France, pour dénoncer l'érosion de leur pouvoir d'achat. C'est lié, on le sait, à cette hausse de la CSG, mouvement à l'appel de 9 syndicats et organisations, 1,7 point de contribution sociale généralisée qui est donc appliquée depuis le 1er janvier dernier pour financer notamment la baisse des cotisations des salariés du privé. Damien Triomphe, bonjour.
Bonjour.
Alors Anne Petit, qui est la présidente de l'Union nationale des retraités, le disait ce matin, la hausse de la CSG, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase sur les retraités.
Oui, c'est vrai que ça ne passe pas. Alors, il faut dire qu'ils ont largement contribué à l'élection d'Emmanuel Macron, les retraités. 3 sur 4 ont voté pour lui. Et là, il met en place cette mesure parce que c'est une solidarité intergénérationnelle qu'on peut leur demander, dit-il. Mais c'est un coup de plus. Après, il y a 10 ans, la fin de la demi-part des veuves, sous François Fillon. En 2012, la fiscalisation de la majoration de pension aux parents qui ont élevé 3 enfants. Beaucoup sont devenus imposables. Plus une taxe de 0,3% sur les pensions il y a 3 ans, plus le gel de ses pensions. Alors, les retraités en veulent à Emmanuel Macron et ils lui font savoir, comme hier, en Touraine.
Là, vous nous avez vraiment pompés.
Non, c'est pas vrai. Mais je vais vous expliquer.
Les retraités, dites donc, on a travaillé toute notre vie.
Mais vous avez travaillé toute votre vie, pourquoi?
Pour avoir une retraite.
Non, si vous regardez le système français tel qu'on l'a, vous avez travaillé toute votre vie pour payer la retraite de vos aînés. Votre retraite, c'est les jeunes qui vont la financer, c'est les actifs actuels. On a baissé de 3 points toutes les cotisations salariales. Donc tous ceux qui travaillent touchent plus pour qu'ils gagnent plus par le travail, que ça redémarre plus vite, pour qu'ils puissent vous payer les retraites. Voilà,
ça fait jamais... on n'est pas content.
Ça fait jamais plaisir, mais je l'assume.
Et en plus, il assume. Et oui, hein, il rappelle que la hausse de la CSG, c'est la compensation à la baisse de 2 cotisations salariales. Il assume de demander un effort aux plus âgés parce que certains vont bénéficier à terme de la suppression de la taxe d'habitation et parce que les retraités qui vivent seuls avec moins de 1 200 € par mois ou en couple avec 1 840 € ne sont pas concernés par la hausse de la CSG. Alors si... ils le sont, mais s'ils ont des revenus complémentaires, par exemple s'ils perçoivent un loyer quand ils sont multipropriétaires, ou encore s'ils ont fait des placements.
Merci beaucoup Damien Triomphe. J'ajoute que l'ancien ministre Les Républicains Éric Woerth soutient qu'Emmanuel Macron oppose les générations lorsqu'il prend du pouvoir d'achat aux retraités pour le transférer aux actifs. Chaque génération, dit-il, a ses problèmes, mais l'idée globale de jouer une catégorie sociale de Français contre une autre est une très mauvaise idée, déclare donc le président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. C'était ce matin Éric Woerth sur France 2. Le mouvement des retraités se double donc d'une nouvelle mobilisation des personnels des EHPAD, maisons de retraite médicalisées, qui réclament plus de moyens humains et aussi plus de moyens financiers. Rassemblement prévu tout à l'heure, dans quelques minutes d'ailleurs, sous les fenêtres du ministère des Solidarités et de la Santé. Agnès Buzyn s'est engagée à recevoir une délégation. Et pour l'intersyndicale, eh bien, c'est l'augmentation des effectifs qui est la priorité. C'est le besoin urgent. La ministre, elle, a fait savoir déjà, Annabelle Grelier, que la France n'avait pas les moyens budgétaires d'assurer cette charge.
Alors, les syndicats évaluent à environ 200 000 le nombre de recrutements nécessaires pour le bon fonctionnement des EHPAD. Un chiffre sur lequel s'accordent d'ailleurs les deux députés, Monique Iborra de La République En Marche et Caroline Fiat de La France Insoumise, qui ont remis leur rapport hier. Selon elle, cela coûterait 7 7 à 10 milliards d'euros. Le gouvernement a dit en effet qu'il n'a pas les moyens financiers et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dit par ailleurs que le ratio d'un personnel pour un résident n'est pas scientifiquement prouvé. Sur ce point, les syndicats se basent plus sur un comparatif européen et notamment Europe du Nord, où le ratio de personnel par résident est aujourd'hui d'1,2% quand il est de 0,6% en France. La position du gouvernement est rigide et inflexible, a réagi le leader de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, qui a suggéré de consacrer aux EHPAD une partie des recettes fiscales supplémentaires enregistrées en 2017. Le Conseil économique, social et environnemental, qui a également planché sur la question, préconise lui une taxe sur les droits de succession, un investissement qui paierait au plan humain mais aussi économique dans un secteur où tous les économistes s'accordent à dire qu'il peut devenir le plus grand créateur d'emplois. Pour l'heure, la ministre de la Santé, outre le déblocage de 50 millions d'euros pour les structures en difficulté, promet de neutraliser les effets négatifs de la réforme de la tarification qui a fait 20 à 25% de perdants. Elle n'exclut pas des ajustements. Agnès Buzyn qui présentera donc fin mars une feuille de route globale pour la prise en charge du vieillissement.
Annabelle Grelier, merci. Les principaux syndicats de la SNCF vont se retrouver en fin de journée pour décider du principe, des modalités de la grève prévue. Ils ont déjà annoncé d'ailleurs une mobilisation aux côtés des fonctionnaires. Ce sera le 22 mars prochain, date à laquelle d'ailleurs les syndicats de la RATP appellent également au débrayage. Et en attendant, eh bien, les dirigeants de la SNCF remettaient ce matin leur programme de réforme au gouvernement. C'est en prélude en fait au projet stratégique qui va être présenté avant l'été. Hakim Kasmi.
Oui Antoine, une feuille de route avec un mot d'ordre, la compétitivité pour faire face à l'arrivée de la concurrence. Pour ça, Guillaume Pepy, le PDG de la SNCF, préconise d'améliorer le réseau ferroviaire, notamment sur les petites lignes. L'État s'est engagé à ce titre à investir 46 milliards d'euros sur 10 ans. Autre axe décliné, eh bien, développer et favoriser l'échange pour les managers afin de décloisonner le pouvoir de décision. Autant de déclarations, une proposition qui ne devrait pas atténuer la colère des syndicats, d'autant que ce matin, Guillaume Pepy et Elisabeth Borne ont confirmé la fin du statut pour les nouveaux entrants à la SNCF.
Alors, les organisations syndicales avaient déclaré que le gouvernement s'exposait à un conflit majeur, comme en 1995, disait-il, s'il décidait, le gouvernement, de passer en force en recourant notamment aux ordonnances, ce qui a été fait donc hier. Comment se présente donc cette réunion ce soir, Hakim ?
Eh bien, ils se retrouvent pour décider des modalités de leur mouvement, un mouvement qui s'annonce dur, car même chez les syndicats réformistes, comme l'UNSA ou la CFDT, on se dit favorable à une grève reconductible et perlée, avec chaque jour une profession différente, un jour les conducteurs, un jour les contrôleurs, afin d'atténuer la casse financière sur la fiche de paye à la fin du mois. Et ce ne sont pas les propos de la ministre ce matin qui devraient atténuer leur colère.
Moi, je ne comprends pas la grève alors que la concertation est en cours sur des sujets très importants pour les cheminots, qui sont les préoccupations dont ils m'ont parlé quand je les ai rencontrés ces derniers jours sur le terrain. Les réponses, elles sont à bâtir dans la concertation, dans la négociation, ces sujets-là. Les cheminots attendent des réponses. La concertation doit permettre d'apporter ces réponses.
En attendant, Guillaume Pepy doit rendre son rapport sur la compétitivité fin juillet au gouvernement.
Hakim Kasmi, merci beaucoup. À la frontière de la politique et des médias maintenant, des protestations des députés, notamment de la France Insoumise, après la désignation du documentariste Bertrand Delay à la direction de la chaîne parlementaire. Clémentine Autain, par exemple, dénonce ce matin un choix scandaleux qui confirme, je cite, le mépris de la Macronie pour le pluralisme. Le ministre des Relations avec le Parlement, Christophe Castaner, répondait ce matin que Bertrand Delay avait pourtant reçu les meilleures notes de tous les candidats au poste dans la première épreuve, qui était une épreuve anonyme. On n'est pas forcément de qualité parce qu'on est critique, négatif contre le président de la République, a dit M. Castaner. Et l'inverse est vrai aussi, a-t-il ajouté, Sophie Delpont.
En interne, certains peuvent se demander s'il n'est pas un envoyé de l'Élysée, selon un membre de la Société des journalistes de LCP. Car en effet, sur les 20 billets de blog rédigés par Bertrand Delay sur le Huffington Post, entre juin 2017 et janvier 2018, la quasi-totalité est très favorable au président de la République. En voici quelques extraits. Pour qualifier Emmanuel Macron le 17 juin dernier, Bertrand Delay écrit qu'il s'agit d'un homme libre et qui incarne à lui seul une rupture avec le cynisme de l'époque. Le 25 juin dernier, selon ses mots, le chef de l'État s'est imposé dans la fonction avec une certaine flamboyance et qui régénère la République. Le 4 septembre, Bertrand Delay interroge « Et si Emmanuel Macron était déjà celui qui allait redonner à notre pays un peu de la fierté d'être ce que nous sommes ?» Avec un parler vrai face à des surenchères démagogiques, toujours selon le documentariste qui souligne par ailleurs le 2 décembre dernier que le président de la République serait doté d'une humilité voulue et revendiquée alors même que son universalisme est celui des Lumières. Fin de citation. l'immigration. Dans une interview donnée au journal Télérama hier, le nouveau président de LCP promet une indépendance éditoriale. En tant que président, je n'ai pas l'intention de me mêler du rédactionnel, selon ses mots. Une garantie très insuffisante, vous l'avez dit, notamment pour le socialiste Olivier Faure, pour qui il émane de cette nomination l'image d'un pouvoir qui méthodiquement cherche à neutraliser tous les contre-pouvoirs, la presse, le Parlement, les syndicats et les élus locaux. La députée France Insoumise Clémentine Autain sent de son côté un parfum d'ORTF 50 ans après mai 68.
Merci beaucoup Sophie Delpont. On passe maintenant aux mutations industrielles en cours dans le monde avec l'annonce par le distributeur de jouets Toys R Us de la vente, de la fermeture en tout cas de l'ensemble des magasins qu'il détient aux États-Unis. Ça fait quand même 885 grands magasins donc de jouets. 33 000 emplois sont menacés. En France, la compagnie n'a pas pour l'heure annoncé de vente de ces 53 magasins, mais parle d'une option qui est envisagée dans ce sens. Camille Manière, bonjour.
Bonjour.
Bon, est-ce qu'on peut dire, comme ça vient à l'idée, comme ça spontanément, qu'Internet a eu raison du premier distributeur de jouets aux États-Unis?
Alors, on peut dire sans se tromper que la concurrence d'Amazon et du commerce en ligne en général a fait beaucoup de tort. C'est vrai, aux ventes de Toys R Us, c'est l'une des causes de son naufrage, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi une évolution plus profonde dans le monde merveilleux du jouet et du jeu. Les habitudes de consommation changent depuis une décennie. On vend moins de poupées et de petites voitures et plus de jeux sur écran. Et ce sont des produits sur lesquels l'enseigne de magasin n'a jamais vraiment su se positionner. Toys R Us, il faut le rappeler, c'est un groupe qui est intrinsèquement lié à l'après-guerre, au baby-boom, à l'explosion de la publicité et de la consommation de masse avec ses rayons débordants de rose Barbie et de rouge Disney. Un groupe aussi qui a raté le tournant du numérique à l'image de son site internet qui semble rester bloqué au début des années 2000. Et puis c'est une multinationale aussi et surtout qui paye aujourd'hui les conséquences de son rachat en 2005 par deux fonds d'investissement, KKR et Bain Capital, des spécialistes de l'ingénierie financière, beaucoup moins de la vente de jouets. L'opération à plus de 6 milliards de dollars s'était faite à crédit, creusant d'autant la dette du groupe et freinant son développement. C'est cela donc aussi qui a fait de Toys R Us icône de la distribution mondiale, l'un des échecs les plus violents par ses conséquences sociales de ces dernières années dans le monde du commerce, car on parle bien de 35 000 emplois sur la sellette aux États-Unis et en Grande-Bretagne, beaucoup plus encore si on compte les 800 magasins menacés par la liquidation dans une quarantaine de pays à travers le monde. En ce qui concerne la France, enfin, Toys R Us, ce sont 53 boutiques, 1300 salariés et un patron, Jean Charter, qui indiquait en fin de matinée qu'il négocie avec plusieurs repreneurs possibles pour éviter le naufrage total.
Merci beaucoup Camille Magnard. Le principal titre de l'actualité à l'étranger, c'est cette crise diplomatique qui se prolonge entre Londres et Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères juge ce matin inacceptable les accusations de la première ministre britannique Theresa May, qui a imputé hier, on le sait, à Moscou, cette tentative de meurtre contre l'ancien agent double russe Sergueï Skripal en Angleterre. La décision de Londres, donc, d'expulser 23 diplomates russes et de suspendre les contacts bilatéraux est irresponsable, affirme le porte-parole du Kremlin. La Grande-Bretagne, dit-il, n'a fourni aucune preuve à l'appui de ces accusations et la Russie se prépare maintenant à riposter à ces annonces britanniques. Nadine Epstein.
Les 23 diplomates russes sur les 59 actuellement en poste au Royaume-Uni ont été sommés par Londres de partir d'ici une semaine. Ils sont accusés d'être des agents de renseignement non déclarés. Bien qu'il s'agisse de la plus importante expulsion de diplomates russes par le Royaume-Uni depuis la guerre froide, cette sanction est globalement jugée modérée par les experts qui estiment, comme Theresa May, qu'il n'est pas dans l'intérêt des Britanniques de couper tout dialogue avec les Russes, et l'absence d'un représentant royal à la Coupe du Monde de football cet été en Russie reste symbolique. Londres, qui a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, a obtenu des États-Unis et de la France leur soutien. Washington se dit solidaire de son allié et tient la Russie responsable de cet empoisonnement. Paris partage le constat du Royaume-Uni qu'il n'y a pas d'autre explication plausible à la tentative d'assassinat par l'emploi d'une arme chimique contre Sergueï et Lulia Skripal. Calomnie, répond l'ambassadeur russe aux Nations Unies, qui à son tour accuse Londres de mener une guerre de propagande contre Moscou. Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Lulia, 33 ans, ont été victimes d'une attaque avec un agent innervant militaire de fabrication russe, selon les autorités britanniques, et ils sont toujours dans un état grave. Ce mystérieux malaise a très vite pris un air de déjà-vu et les politiques ont dressé un parallèle avec la mort d'un autre ex-agent des services secrets russes, empoisonné en 2006, Alexandre stand. Litvinenko est mort à 43 ans le 23 novembre 2006, 22 jours après avoir bu du thé vert empoisonné au polonium-210, un isotope radioactif dont la Russie est le seul pays producteur. Mais ce n'est que 10 ans après les faits que Moscou avait été mise en cause.
Merci bien Nadine Epstein. Donc effectivement Emmanuel Macron qui s'entretient ce matin avec la première ministre britannique pour lui déclarer sa solidarité donc, et annoncer, dit-il, dans les prochains jours, des mesures que nous entendons prendre donc, dans cette affaire. Est-ce qu'il s'agit véritablement de sanctions que la France envisage également de prendre en boitant le pas ainsi à la Grande-Bretagne? Nous sommes en compagnie de la ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en charge des affaires européennes, Nathalie Loiseau. Bonjour madame.
Bonjour.
Donc, mesures contre la Russie de la part de la France, ça voudrait dire quoi? Quel genre de mesures pourraient être envisagées?
Alors d'abord, c'est une affaire grave, ce dont on vient de parler. C'est la première fois qu'est utilisée en Europe une arme chimique développée clandestinement et développée clandestinement dans un seul endroit au monde, la Russie. Quand Theresa May parle avec Emmanuel Macron, et ils se sont déjà parlé à deux reprises sur ce qui s'est passé, les indices qu'elle partage avec nous, c'est que, en effet, il n'y a pas d'autre hypothèse plausible qu'une implication russe dans cette tentative d'assassinat de deux personnes qui sont aujourd'hui des ressortissants britanniques.
Russe, donc, ça ne veut pas forcément dire gouvernement russe.
C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment, et l'enquête continue. Mais en tout cas, l'origine russe de l'agent toxique utilisé, elle ne fait manifestement pas de doute. On n'a aucune raison de mettre en doute ce que nous dit la première ministre britannique. Donc une affaire grave, il ne peut pas y avoir d'impunité sur l'utilisation d'une arme chimique prohibée sur le sol européen. Nous avons donc un devoir de solidarité.
Qui va se traduire comment?
Nous allons en parler potentiellement avec Madame May. Nous la voyons la semaine prochaine, il y a un Conseil européen. Demain, Emmanuel Macron et Angela Merkel se voient à Paris. C'est évidemment l'affaire des Européens d'exprimer leur solidarité, de décider quel type de mesures ils sont prêts à prendre. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas l'annoncer avant.
Vous voulez dire que ce serait plutôt des mesures européennes que des mesures spécifiquement françaises?
C'est ce qu'on va voir. Il faut aussi voir si on se met d'accord ou si quelques pays prennent des mesures de leur côté. Mais en tout cas, on ne peut pas rester sans réaction et il ne peut pas y avoir d'impunité à quelque chose d'aussi grave que d'utiliser une arme chimique.
Nathalie Loiseau, merci. Question de Frédéric Seiss.
Oui, bonjour Nathalie Loiseau. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous parlez d'un agent innervant qu'on peut tracer de fabrication russe. Quel serait l'intérêt des Russes d'avoir ainsi signé un méfait dans cette théorie-là?
Écoutez, je ne suis pas enquêteur et ça n'est pas à moi de répondre, mais ce que je voudrais, c'est avoir autre chose que des réponses un peu sarcastiques de la part de Moscou, mais plutôt des explications sur comment se fait-il que une substance qui a été développée en Russie se retrouve utilisée dans une tentative d'assassinat.
Alors on va parler dans un instant des consultations citoyennes que vous lancez très bientôt. Avant cela, il y a eu tout de même un grand discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe. C'était en septembre dernier à la Sorbonne, avec une grande volonté d'intégration supplémentaire. Mais quand on fait un petit tour d'horizon des pays européens, on se rend compte que, évidemment, la Grande-Bretagne est en plein Brexit, que l'Italie vient d'élire des eurosceptiques, ou en tout cas de les placer en tête. Il reste qui pour être le grand partenaire, les grands partenaires, au-delà de l'Allemagne, de la France, dans cette vision d'Emmanuel Macron?
Ce que dit Emmanuel Macron, c'est deux choses. D'une part, que les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui se moquent des frontières. Qu'il s'agisse de la transition écologique, qu'il s'agisse de la révolution numérique, et vous en avez parlé pendant votre journal, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, qu'il s'agisse du besoin d'innovation, qu'il s'agisse de faire face aux phénomènes migratoires, on ne résoudra pas ces questions en s'enfermant derrière nos frontières. Une fois qu'on a dit ça, si l'Europe doit répondre, il faut que l'Europe se réforme. Et je crois que s'il y a un consensus partout à travers le continent aujourd'hui, c'est que on a envie d'une Europe différente, plus proche des citoyens, qui répondent davantage à leurs préoccupations, qui les protègent davantage.
Mais une fois qu'on a dit ça, quelle et vision en commune Italie, entre Emmanuel Macron et Matteo Salvini, par exemple?
Mais en Italie, on n'a pas forcément dit autre chose. Des électeurs qui se sont exprimés ont d'abord tourner le dos au parti traditionnel, c'est aussi ce qui s'est passé en France l'année dernière. Ils ont aussi exprimé ce que je pense être une déception par rapport à l'Europe. Par rapport aux faits migratoires, ce que les Italiens disent aujourd'hui, c'est pas qu'il y a eu trop d'Europe, c'est qu'il n'y avait pas assez d'Europe à leur côté, qu'il n'y avait pas assez de solidarité européenne. Ce que disent aussi les électeurs italiens, c'est qu'ils ont subi les conséquences d'une crise financière et qu'ils ont eu l'impression d'être victimes et pas suffisamment épaulés par l'Europe. Et donc on est tous d'accord sur cette idée qu'il faut une Europe qui protège davantage les citoyens, avec des voix qui sont différentes. C'est la raison pour laquelle nous avons envie d'entendre les citoyens nous dire vers où est-ce qu'on décide.
C'est peut-être un peu dangereux de demander aux gens ce qu'ils pensent de l'Europe, finalement.
Ah, je crois que ce qui est dangereux, c'est de ne pas leur demander et de laisser la conversation prise en otage, je dirais, par deux types de porte-voix. Ceux qui sont des fédéralistes idéalistes fervents, qui considèrent que c'est toujours plus d'Europe, plus d'intégration. Ça n'est pas forcément ce que dit Emmanuel Macron. Quand il parle d'une réforme de l'Europe, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent être traitées avec plus d'intégration, d'autres avec plus de coopération entre les gouvernements, d'autres peut-être revenir à un échelon plus local. Et puis vous avez aussi des populistes qui disent « Nous sommes le peuple, nous parlons au nom du peuple et nous ne voulons plus de l'Europe. » Et on ne sait pas ce qu'ils proposent.
Vous avez vu ce que disent les ministres de 8 pays du Nord dans un communiqué très récent. Ils disent « L'Europe a plusieurs vitesses », il ne cite pas Emmanuel Macron, mais c'est l'un de ses projets. « Nous n'en voulons pas, nous voulons, disent-ils, une construction inclusive. On ne veut pas être bouté hors de l'Europe. » Est-ce que vous allez pouvoir faire avec ces gens-là également? Est-ce qu'il n'est pas un peu isolé, Emmanuel
Macron?
C'est
un peu comme si on disait « L'Europe, la terre est ronde, mais nous ne le voulons pas. L'Europe a plusieurs vitesses, elle existe aujourd'hui. Schengen ne concerne pas tout le monde, l'euro ne concerne pas tout le monde. Nous avons mis en place à la fin de l'année dernière une coopération en matière de défense à laquelle nous avons dit que tout le monde n'était pas obligé de se joindre, seulement ceux qui étaient à la fois volontaires et en capacité de le faire. Finalement, 25 pays de l'Union européenne ont décidé de dire oui. Nous n'avons forcé personne ni à être dedans ni à être dehors. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut avancer en Europe, il faut à la fois laisser les avant-gardes les plus allants aller de l'avant, et puis ne forcer personne. Respecter la souveraineté de ceux qui, pour des raisons politiques ou pour des raisons économiques et sociales, ne sont pas prêts à aller plus loin.
C'est ça l'idée finalement d'Emmanuel Macron, de dire allons-y en fonction des volontés, sortons des cadres globaux préétablis de progression de tous vers une
Bien
direction.
Bien sûr, à partir du moment où c'est ouvert et inclusif, où on ne ferme la porte à personne a priori, mais on ne force personne, mais en tout cas on est empêché par personne d'aller de l'avant.
Précisons peut-être d'un mot en quoi consistent ces consultations européennes. Ça s'ouvre en avril, ça se clôt en octobre prochain. Il y a eu un précédent, je le compare juste sur la méthode, mais pas du tout sur la finalité. C'était les débats sur l'identité nationale qui avaient été suscités par Nicolas Sarkozy il y a quelques années. Vous avez regardé ce qui n'a pas fonctionné là-dedans. On se rappelle de ces débats en préfecture avec des gens qui étaient issus du Front National, qui venaient parler. Et finalement, la population dans sa diversité n'était pas venue. Vous vous dites, on devrait essayer de ne pas imposer ça d'en haut. Comment faire pour que ça ne soit pas un gadget?
Ce n'est pas l'État qui va organiser les consultations citoyennes sur l'Europe, c'est la société civile. Elle est encouragée à le faire. L'idée, c'est que un syndicat, une entreprise, une association, une université, une fédération professionnelle, des jeunes, des moins jeunes, fassent une proposition et que, à condition qu'ils respectent le pluralisme, la transparence sur qui vient, qui parle et qui finance, et qu'ils fassent un compte-rendu public de leur consultation, ça devient une consultation citoyenne.
Tout le monde peut organiser, entre guillemets. Je voudrais juste vous poser une question sur l'affaire Selmayr. C'est un peu complexe, je vais essayer de la résumer très rapidement. En début de semaine, les députés européens se sont vertement exprimés sur la question à la Commission européenne. En quelques mots, c'est le directeur de cabinet de Jean-Claude Juncker qui s'est retrouvé propulsé à la tête de la très puissante administration de la Commission européenne. Ce sont 33 000 fonctionnaires. Une nomination qui s'est faite dans le dos des commissaires, disent-ils. Le journal Libération parle d'un putsch. Est-ce que tout est normal dans cette affaire, selon vous?
Alors d'abord, c'est une affaire qui préoccupe la bulle bruxelloise, et je crois que si on veut réformer l'Union européenne, c'est pas nécessairement en passant beaucoup de temps sur ce genre de sujet.
Au-delà de ça,
quelques secondes.
Voilà. Ceci étant,
on dit que c'est l'administration qui a pris le pouvoir sur la politique. C'est ce que dit l'eurodéputée Françoise Grosstetz.
Alors, c'est un fonctionnaire qui travaillait avec Jean-Claude Juncker, à qui Jean-Claude Juncker a souhaité attribuer un poste dans l'administration de Bruxelles. Ça s'est passé devant les commissaires. C'était à la Commission de le faire. C'est à elle de s'expliquer si jamais il y avait eu des irrégularités, ce que je n'ai pas entendu jusqu'à présent. Ceci étant, est-ce que la décision a été prise de manière brusque? Je crois qu'on peut dire que oui. Est-ce que on doit être attentif à l'exemplarité, à l'ouverture sur les compétences, à la diversité dans les postes les plus en vue de la Commission européenne? Évidemment oui. Quand l'Europe demande à certains États membres d'être plus exemplaires en matière d'état de droit ou à des pays candidats, il faut qu'elle fasse le ménage chez elle sur ses pratiques.
Ouais, exemplaire aussi, par exemple, par rapport à M. Barroso, puisque la médiatrice de l'Union européenne demande au comité d'éthique de la Commission de réexaminer la question de l'activité professionnelle de l'ancien président de l'exécutif, aujourd'hui employé par Goldman Sachs. On salue Alain Supiot qui est arrivé pendant ce journal. Vous allez participer à ces états généraux de l'Europe, par exemple? Ça vous intéresserait de venir apporter votre contribution dont on vient de parler?
Ben, les discussions citoyennes, c'est une chose. La démocratie, au sens institutionnel, c'en est une autre. Cette question européenne est fondamentale. Je pense que le précédent yougoslave doit nous faire penser au risque énorme qu'il y aurait un éclatement de cette construction, qui a été un grand projet. Mais elle est extrêmement mal en point. L'Europe n'a ni tête politique, ni base démocratique. Elle a été fondée sur la perspective d'un grand marché qui a tous les moyens de détruire les solidarités démocratiquement instituées au plan national, mais pas les moyens de construire des solidarités européennes. Et ce divorce s'accroît.
Et c'est donc de ça dont on va parler. J'aurais peut-être que Mme la ministre voulait faire une réponse très courte.
Bon, évidemment, c'est pas
à ces inquiétudes qui sont très partagées.
Ça n'est pas mon avis, mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous puissiez non seulement l'exprimer, mais faire des propositions. L'Europe, c'est notre destinée commune, c'est notre géographie, c'est notre histoire, c'est notre culture. La question n'est pas de savoir si on veut sortir de l'Europe. Physiquement, géographiquement, on ne le fera pas. La question, c'est de savoir comment on dessine ensemble notre destin commun et comment on fait en sorte que d'autres puissances, plus ou moins bienveillantes, ne dessinent pas l'avenir de l'Europe à notre place. Et donc, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est participez, faites des propositions, on sera heureux de les entendre.
Voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Nathalie Loiseau, d'avoir accepté de venir jusque dans ce studio. Vous êtes donc ministre chargée des Affaires européennes. La météo, ce sera un temps pluvieux et maussade. Le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, le pourtour du Golfe du Lion aussi, sont un peu plus épargnés, comme d'habitude. Température de 9 à 18 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, 18h. Prochain journal, Aurélie Kiffer.